Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Et bienvenue au culte du dimanche 21 décembre, quelques jours avant la célébration de Noël, n'est-ce pas? Toujours un beau moment à passer ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui transforme nos cœurs et qui nous fait amener dans l'excellence et la perfection de ta connaissance. Au nom du Seigneur Jésus, nous avançons dans tout domaine de vie, nous prospérons à tous égards et nous défaisons toute œuvre maléfique dans notre vie au nom du Seigneur Jésus par la vie de victoire. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet fort important, c'est-à-dire un règne par la parole. Dites « je règne par la parole ». Maintenant, prenons note de quelque chose. Prenez Jean chapitre 1. L'ensemble du chapitre. Nous allons voir quelque chose de merveilleux dans Jean chapitre 1. Donc là, c'est l'apôtre Jean qui a écrit, celui qui suivait le Seigneur Jésus partout. Il dit « Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Certaines personnes ont traduit « la parole était un Dieu », mais c'est faux. C'est « la parole était Dieu », c'est « Theos » en grec. Hein. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Donc il dit « tout ce qui a existé, tout ce qui est, a été faite par cette parole. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » Ce qui d'ailleurs prouve que Jésus n'est pas une création de Dieu. Hein. Parce qu'on va voir que cette parole, c'est Jésus lui-même. Donc Jésus n'a pas été créé par Dieu, c'est Dieu lui-même. Okay ? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc ce n'est pas Jean, le disciple de Jésus, c'est Jean-Baptiste, c'est deux personnes différentes, d'accord ? Parce qu'on pourrait dire, on lit Jean, est-ce que c'est ce Jean-là qui parle de lui-même, n'est-ce pas, au verset 6 ? Non, c'est vraiment un autre monsieur, d'accord ? Petite point de parenthèse, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit, c'est Jean le Baptiste, vous avez déjà entendu, je pense, hein. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, d'accord ? Alors que Jésus était juste dans le ventre de Marie, quand Marie a salué la mère de Jean, qui attendait Jean dans son ventre, instantanément l'Esprit de Dieu est rentré dans Jean. Ce qui montre que Jésus-Christ et Marie étaient remplis du Saint-Esprit alors que Jésus n'était encore qu'une toute petite fécondation dans le ventre de Marie. Ce qui d'ailleurs justifie notre point de vue en tant que chrétien anti-avortement, parce que c'est évident. Le petit bébé qui était Jésus, encore juste tout petit, a pu transmettre l'Esprit Saint à quelqu'un, alors qu'il était juste un embryon. Et Marie, pardon, c'était pas Marie, non, la maman de Jean, était enceinte, je ne sais plus si c'est 3 mois ou 6 mois, mais elle était enceinte encore. Et le bébé, la Bible dit, a exulté de la joie. Donc le bébé dans le ventre a eu des sentiments. C'est beau, hein ? Verset 7, « Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. » Crusse, c'est du vieux français pour croire. Hein, enfin, vieux français, pas vraiment. Mais... « Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. » Donc il dit, c'est pas lui qui était la lumière. C'était pas lui le Messie, c'était pas lui Dieu incarné. C'était juste un témoignage à cette lumière. Okay ? La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Était dans le monde et le monde fut fait par lui. Donc là, il a changé, c'est plus elle la parole, c'est lui la lumière. Notez, c'est intéressant, c'est qui ce lui ? C'est Jésus-Christ. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. On va parler dans la théologie, mais on va voir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Si vous croyez au nom du Seigneur Jésus, vous êtes enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Regardez. Et la parole, donc là il revient sur cette parole qui parlait tout au début. Et la parole devint chair. Cette parole qui est Dieu, hein, n'est-ce pas ? Il a dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous devez comprendre quelque chose. Vos paroles, ça c'est un principe général. Vos paroles sont vous. Et vous êtes le résultat de vos paroles. Toutes vos paroles se sont accumulées dans votre vie et vous ont conduit au point où vous êtes aujourd'hui. Et vos paroles futures peuvent rediriger votre vie. Vous voyez ça ? Et les paroles d'autres personnes, des fois, vous ont conduit là où vous êtes. Mais vous, par vos paroles puissantes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pouvez rediriger votre vie. La Bible compare la langue à un gouvernail, d'un navire, d'un énorme navire. On peut rediriger là où on veut. et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire. » Et là, il précise que c'est bien le Fils. Une gloire comme d'un Fils unique. Donc, ça parle de Jésus. « De la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » J'aimerais que vous compreniez ce principe. Jésus-Christ, quand il a été incarné, c'était l'ensemble des paroles de Dieu. Vous voyez ? Ça a été incarné dans un corps humain au travers de la Vierge Marie. Et ce Jésus marchait plein de grâce et de vérité. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est grâce et vérité. Amen. Le terme vérité veut dire réalité. C'est quelque chose de profond. Aujourd'hui, c'est le même principe qui s'applique à nous. L'ensemble de qui on est, l'ensemble de nos actions, de nos pensées, de notre carrière, l'ensemble de notre famille, l'ensemble de ce qui nous représente aujourd'hui est l'incarnation de parole. C'est pour ça que depuis l'enfance, certains enfants sont entraînés justes, vous voyez, dans la justice et la gloire et la prospérité. Et ils avancent d'une manière ferme et décisive. Et d'autres sont élevés avec des gens qui les condamnent. Il y a beaucoup de professeurs. Moi, je vous ai dit, si vous avez l'occasion, retirez vos enfants du système public et mettez-les dans un truc chrétien. Parce que les professeurs dans le système public défait et accusent et détruisent les enfants. Énormément. Ils disent « tu n'arriveras à rien, non, rêve pas, fais pas ci ». Et ça, c'est des choses, vous comprenez, qui sont contre et qui construisent l'enfant. Vous voyez ? Et l'enfant grandit avec cette vision de lui-même qu'il est incapable. Et après, ça fait quoi ? C'est qu'il agit comme un incapable. Vous voyez ? Il ne faut pas s'étonner. Et donc, on doit diriger les paroles qu'on dit sur nos enfants et sur les autres, pas que les enfants. Si vous maudissez quelqu'un, ne serait-ce qu'une parole vaine et vaseuse, elle peut amener la personne hors de ce que Dieu a pour elle. Donc j'aimerais qu'on voie ça un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on doit rediriger notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de voir les choses, vous voyez ? Et c'est là qu'on verra la victoire que Christ a pour nous. Si on peut prendre une chose importante à comprendre, pardon, c'est que les mots, vos mots, sont des substances. Je vais vous montrer. Si par exemple je vous dis « regardez-moi tous ici », vous êtes tous, ceux qui avaient la tête baissée, vous êtes tous levé la tête pour me regarder. Ma parole a produit une action en vous, n'est-ce pas ? On est d'accord. Nos paroles produisent une substance, vous comprenez ? Elles sont substance elles-mêmes. Elles produisent des réactions, des résultats, tout le temps. C'est pour ça que toute transmission de paroles produit une réaction chez quelqu'un. La colère vient des paroles. L'amour vient des paroles. Toutes ces choses viennent de paroles, vous comprenez ? C'est des paroles qui sont arriver dans la perception d'une personne pour créer une image et une réaction. Vous voyez ? Si par exemple je vous dis un chien, vous voyez tous un chien dans votre tête. Et maintenant je précise un chien blanc, vous voyez un chien blanc. Je précise un chien blanc grand, là vous enlevez les petits chiens. Là je dis un chien blanc, grand, affectueux. Vous voyez un chien qui sourit, qui a la langue qui tord et puis qui roule vers qui court vers quelqu'un. Comment se fait-il que de simples mots arrivent à créer une image à l'intérieur de vous ? Et maintenant si cette image était positive ou négative, quelle serait votre réaction face à cette image, vous voyez ? Imaginez quelqu'un, on lui dit depuis l'enfance que les chiens sont méchants, mauvais, et il se fait cette image des chiens. Quand il voit un chien en vrai, qu'est-ce qui va se passer ? Sa réaction va être de partir, ou d'avoir peur, ou de réagir en conséquence. Il pourrait appeler la police, il pourrait appeler un voisin pour aider. Vous voyez, il aurait une réaction négative. Vous comprenez un peu ? Et donc, il faut comprendre que nos mots sont des substances, ils ne se perdent jamais. Dans le monde de l'esprit, nos mots portent des puissance pour toujours. Et tout mot qui est sorti de notre bouche, porte un impact éternel, quel qu'il soit. Et cet impact peut seulement être brisé par des paroles plus fortes qui viennent casser ces paroles. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire des choses stupides, comme par exemple, prenons un exemple, quand on demande comment ça va, la personne répond ça va pas. Ou je passe une mauvaise journée. Vous comprenez qu'elle vient de condamner sa journée à être mauvaise. Alors à moins qu'elle remette qu'elle dit non, au nom, et c'est là qu'on utilise le nom du Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Au nom du Seigneur Jésus, cette journée en fait glorieuse, je redirige ma journée avec ma langue, mon gouvernail, et je vais droit au but et j'avance. C'est pour ça que je n'ai jamais de journée où je suis mal, moi. Toutes mes journées sont dirigées par ma parole. Toutes les journées, c'est pour ça que je prospère à tous égards. Parce que j'appelle, par exemple, la Bible dit que l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, 19, peut-être qu'on peut le regarder. Si vous manquez d'argent, parce qu'au fait, vous dites au nom du Seigneur Jésus, l'argent vient à moi. Et vous allez voir que l'argent vient. Parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. Regardez, la Bible dit. Et nos paroles sont nous. Ça, j'aimerais que vous le compreniez. Les paroles sont vous. Et vos paroles doivent être puissantes pour porter du fruit. Parce que vos paroles peuvent être impuissantes, même si elles portent toujours quelque chose. Mais elles peuvent être impuissantes. Ecclésiaste 10, 19. C'est intéressant que la Bible dit que l'argent répond. Vous savez que la Bible dit aussi que l'argent rend témoignage pour ou contre nous au Seigneur? Vous saviez ça? La Bible dit ça, regardez. On fait un repas pour s'égayer et le vin rend joyeux, mais l'argent répond à tout. Vous savez que l'argent, contrairement aux idées reçues, n'est pas une force neutre. Beaucoup de gens disent que l'argent est une force neutre dans le sens que le même billet peut être utilisé pour élever quelqu'un ou détruire quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais on parle du billet, là. Moi, je parle de l'argent lui-même. Le concept de l'argent, de la richesse, a été créé par Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que l'argent répond. Il répond aux circonstances. Il répond à notre commandement. Quand on était comme ça, on s'est posé avec l'Église pour prier les matins. Et le Seigneur nous a dit de prier et de ôter l'argent des associations LGBT pour qu'elles soient envoyées dans la justice de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par prier intensément. En l'espace de quoi? 2-3 semaines, tout d'un coup, l'association, je ne sais plus laquelle c'est, Trans de Genève, c'est ça? Plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent du tout. Après, on a continué à prier. On a dit au nom du Seigneur Jésus, cette machin sarco-là, on l'annule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus d'argent. Vous voyez, l'argent répond. L'argent, on peut dire, argent, je te commande de ne pas aller dans les poches de ces gens méchants au nom du Seigneur Jésus-Christ et d'aller dans la poche des chrétiens. C'est comme ça qu'on dirige notre monde. C'est juste une petite parenthèse là, marrante. Mais l'argent répond à tout. Si vous avez besoin d'argent, vous dites « argent, viens à moi ». Mais l'argent, vous comprenez, est serviteur de Dieu. L'argent n'est pas neutre, contrairement aux idées reçues. Il sert le Seigneur. Et la Bible dit que l'argent va rendre témoignage pour ou contre nous auprès du Seigneur. Vous savez que c'est dans la Bible, ça? Vous voulez le voir? Prenons Jacques. Vous allez voir. Vous allez voir. Prenez Jacques. Vous allez voir ce qui est beau dans les Écritures. Amen. Jacques chapitre 5, à partir du verset 1. Regardez, vous allez voir que l'argent est un outil que Dieu veut. Il dit à maintenant et à vous maintenant. Jacques chapitre 5, à partir du verset 1. À vous maintenant riches. Donc il ne parle pas à tous les riches, il va donner le contexte. Hein. Pleurez en poussant des cris. À cause des misères qui vont venir sur vous. Donc il dit, il y a des misères qui vont venir. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Ce n'était pas physiquement le cas, vous comprenez? L'or et l'argent ne pourrissent pas en soi, c'est du métal. Donc il parle d'un principe spirituel qui arrivait. Il dit, votre or et votre argent sont rouillés. L'or pur et l'argent pur ne rouillent pas. Enfin, l'argent, je ne suis pas sûr, mais l'or pur en tout cas ne rouille pas. Hein, c'est des métaux qui ne rouillent pas. Et regardez ça, et le rouille sera un témoignage contre vous. Vous avez noté ça? La rouille spirituelle, cet argent mal utilisé, va être un témoignage contre ces riches. Vous suivez jusqu'ici? Donc il dit, ça va être un témoignage contre vous. Et dévorera votre chair comme le feu. Donc il est en train de dire que le fait que cet argent a été mal utilisé et cet argent a été utilisé contre l'œuvre de Dieu, les emmènera au feu, c'est-à-dire l'enfer. Vous imaginez? Et vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Voici, notez bien ça, je l'ai déjà expliqué, mais j'aimerais que vous voyez. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous, crie. Qui c'est qui crie? Le salaire. L'argent qui devait aller dans la poche d'un ouvrier honnête, dont le riche a volé l'argent, vous comprenez? Il n'a pas versé le salaire dû. Ce même salaire a crié au Seigneur. Et regardez. Et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Sabaoth, c'est un vieux terme qui veut dire des armées. L'éternel Dieu qui combat. Donc vous voyez que l'argent mal utilisé a suscité en Dieu quelque chose de combattant. C'est quelque chose quand même. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous voulez être riche? Pas de problème. Ayez aucune attache aux choses du monde. Vous devez être attaché ni à des bijoux, ni à des voitures, ni à des grosses maisons ou je ne sais quoi. L'argent est utilisé pour Dieu, pas pour se l'amasser d'une manière bête. Et il réfléchit. D'ailleurs, tous les gens qui ont fait ça, tous les 50, 60, 70 ans, il y a un crash et ils perdent tout. Uniquement la sécurité en Dieu fait du sens. Amen. C'est beau, hein? Mais revenons sur notre sujet principal, c'est-à-dire le règne par les paroles. Matthieu, chapitre 12, versets 33 et 36. Où faites l'arbre bon et son fruit bon? Ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais. Donc il dit, soit l'arbre est bon et son fruit est bon, soit l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Je n'ai pas encore fini, juste. car l'arbre est connu par son fruit. Donc il dit, vous allez reconnaître un oranger parce qu'il porte des oranges. Vous allez reconnaître un cerisier parce qu'il porte des cerises. Verset suivant. Donc là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et là, il dit, race de vipères, comment étant méchant pouvez-vous dire de bonnes choses ? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'homme bon du bon trésor produit de bonnes choses, et le mauvais du mauvais trésor produit de mauvaises choses. Mais là, il parle de fruits. Et tout d'un coup, il switch et il dit, comment vous, juste au verset 34, c'est juste. Race de vipère, comment étant méchant pouvez-vous dire de bonnes choses ? Donc il est passé de fruit à dire. Vous suivez jusqu'ici ? Donc le fruit dans le contexte dans lequel il parle est le fait de parler. D'accord ? Donc il dit on reconnaîtra un arbre à son fruit, on reconnaîtra quelqu'un par ses paroles. Regardez. Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Verset suivant. L'homme bon, donc là, il parle d'un homme bon, du bon trésor produit de bonnes choses, et le mauvais du mauvais trésor produit de mauvaises choses. Et je vous dis que toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour du jugement. Donc le Seigneur Jésus ici parle de fruits qui émanent de nous, et ces fruits sont des paroles, vous comprenez ? Dites, mes paroles doivent être puissantes. Pourquoi est-ce que les hommes rendront, les paroles oiseuses, c'est des paroles sans but, vous voyez ? Verset suivant. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Pourquoi la Bible dit que toute personne qui croit au Seigneur Jésus et confesse Jésus en chair, incarné, ressuscité des morts, sera sauvée ? Parce qu'il dit, si tu confesses de ta bouche, de ton trésor intérieur, vous comprenez ? Les paroles que vous dites viennent de votre intérieur. Maintenant, vous ne pouvez pas commencer à parler chinois, à moins que vous ayez appris la langue. Pourquoi ? Non, mais c'est une vraie question, pourquoi ? Le chinois existe ? C'est documenté. C'est parlé par 2 milliards de personnes sur Terre. Comment se fait-il que personne ici peut dire un seul mot ou plutôt une seule phrase en chinois ? Parce que ça n'a pas été mis dans votre cœur et votre homme intérieur. Vous ne pouvez pas parler une langue que vous ne connaissez pas. Ça me paraît logique, n'est-ce pas ? Et comment ça se fait alors ? Il faut vous programmer pour apprendre le chinois. Vous voyez ? On doit programmer le chinois à l'intérieur de nous pour pouvoir s'exprimer dans cette langue. On doit programmer ceux qui parlent anglais, ici, qui c'est pas votre langue maternelle, mais même un enfant, on lui parle en français et il intègre le français dans sa tête. Il intègre le français dans son cœur pour pouvoir l'utiliser et modéliser les conceptualisations qu'il a dans sa tête. Donc il conceptualise le fait d'aller quelque part et il dit « j'y vais ». Vous voyez ? Hier, on avait le Noël de famille. Et un des petits, il donnait les cadeaux. Et il prenait le cadeau, et c'est très intéressant à observer. Il prenait le cadeau, il demandait pour qui c'était, parce qu'il ne sait pas lire encore à 3 ans. Et moi, je disais, c'est pour grand-maman Claire-Lise. Et là, il disait, oh ! Donc, vous voyez, le mot est rentré dans sa tête. Il y a eu une cogitation. Donc, ma parole était tellement puissante qu'elle a fait qu'un petit a pris un cadeau, puis est allé vers sa grand-maman, et il l'a mis, il a fait, c'est pour toi. Et il l'a posé comme ça. Pourquoi ? Parce que mes paroles sont puissantes. Vos paroles portent des fruits comme ça. On voit ça à la légère comme ça. Mais si j'avais regardé Alessandro et je lui avais dit « bonjour » en japonais, peut-être qu'il connaissait ce mot spécifique, mais que je lui avais dit « comment va la famille » en japonais, il n'aurait pas pu me répondre. Pourtant, il aurait les informations à l'intérieur de lui pour répondre en français, par exemple, ou en italien. Vous voyez ? Comment se fait-il ? Parce que nos paroles, là j'ai pris un exemple simple par rapport à la linguistique naturelle, mais vous devez comprendre que nos paroles reflètent qui on est. Vous voyez ? J'ai vu quelque chose d'intéressant. En français, on a le passé, présent, futur, en gros. Plusieurs temps verbaux, mais en gros, c'est ça. Vous savez que dans certaines langues, le passé, présent, futur n'existe pas dans les verbes ? Et donc, ils conceptualisent des idées temporelles complètement différentes des nôtres. Par exemple, en hébreu, en arabe et autres langues sémitiques, il n'y a pas de présent, passé, futur. Ça n'existe pas dans la langue. Dans le temps verbal, pour être précis. On dit accompli ou non accompli. Vous voyez un peu l'idée ? Donc il n'y a pas « demain je mangerai quelque chose », ils disent « je mange demain, je mange hier ». Vous voyez ? Donc quand ils viennent et qu'ils commencent à apprendre le français, ils doivent changer, ou nous qui apprenons cette langue, on doit changer notre manière d'appréhender les verbes. Vous voyez ? Comment ça se fait ? Alors que finalement, l'expression est la même, c'est qu'on mange demain. Vous voyez ? Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce changement comme ça ? Et c'est pour ça d'ailleurs que les philosophes grecs et arabes à l'époque ne se comprenaient pas sur certains points clés. Ça c'est vrai, c'est historique, allez le voir. juste à cause de certaines formulations de temps verbaux. Voyez? Par exemple, les Hébreux disaient que Dieu est, c'est-à-dire la raison pour laquelle le nom de Dieu en hébreu c'est « je suis ». C'est un « je suis permanent » depuis le commencement sans commencement jusqu'à la fin sans fin, vous voyez? Et c'est un concept qui, une fois traduit en grec, a dû être expliqué. Donc c'est passé de Yahweh, ou Jéhovah, ça dépend comment on le traduit, à Ego Eimi en grec. C'est d'ailleurs ça qu'a mis en rogne les Juifs quand Jésus a dit « je suis Ego Eimi ». Ce qui veut dire « je suis ». Vous voyez? Donc Jésus a dû reprendre cette idée et la reconceptualiser dans sa manière de parler. C'est intéressant, hein? Jean 6, 63. Vous allez voir. Donc vous voyez que vos paroles vous justifient ou vous condamnent. C'est en croyant en Jésus-Christ et en confessant de sa bouche qu'on est sauvé. Il dit « c'est l'Esprit qui vivifie ». Ça, c'est Jésus qui parle, hein? Notez bien, c'est Jésus qui exprime ici. Il dit « c'est l'Esprit qui vivifie », ça veut dire qu'il donne la vie. La chair ne profite de rien. Donc il dit, votre chair ne peut vous donner la vie éternelle. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. J'aimerais quelque chose d'intéressant. Jésus n'a pas dit, certaines versions vont le raccourcir comme ça dans la traduction, mais dans le texte original, c'est très bien traduit ici. Il dit, mes paroles sont esprit et sont vie. Il n'a pas dit son esprit et vie. Il a dit son esprit et son vie. Ce qui veut dire que ce sont deux éléments différents qui ont été conjointement dits. Donc il dit « mes paroles sont esprit et sont vie », n'est-ce pas ? Maintenant, la réalité pour nous, c'est que nos paroles sont esprit. Nos paroles, elles sont esprit. Parce que la Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. La question c'est est-ce qu'elles sont vie ou est-ce qu'elles sont mortes, nos paroles ? Proverbe 18, 21. Prenez note de ces réalités-là. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. De nouveau, il reprend l'expression du fruit pour parler de nos paroles. C'est intéressant ça, hein ? Celui qui aime la langue mangera du fruit de la langue. Si votre vie n'est pas alignée juste, n'est-ce pas ? C'est à cause de vos paroles. Toujours. Les problèmes dans votre vie sont toujours liés à votre parole. Toujours, toujours, toujours. Et notez qu'il dit la mort et la vie. Il n'a pas dit la mort, la vie et plein d'autres trucs l'entre-deux. Il n'a pas dit c'est un spectre de mort et de vie. C'est soit la mort, soit la vie. Et c'est pour ça que Jésus a dit « mes paroles sont esprit et sont vie ». Vous voyez ? Il a distingué les deux parce que son esprit, c'est un fait pour tous les êtres humains. Dès qu'on dit quelque chose, il y a une puissance spirituelle qui est mise derrière. Vous voyez ? J'ai entendu « amen », c'est juste. Mais ça peut être aussi des paroles de mort. Et c'est pour ça qu'on doit contrecarrer les paroles de mort qui viennent contre nous. Par exemple, c'est une des raisons pour laquelle je prends les paroles très au sérieux sur plein de points de vie. Bien sûr, je m'améliore et je grandis là-dedans. Mais, vous comprenez, regardez. Maintenant, j'ai une application qui fait qu'on peut regarder YouTube sans pub et tout ça. Ce qui est bien sûr plus simple pour la confidentialité. À l'époque, je regardais une vidéo du pasteur Chris. Et soudainement, il y a une interruption pour une pub. Et l'annonceur de la publicité dit... Quand vous tomberez malade cet hiver, gna gna gna, puis il dit son truc. Et là, je me suis rendu compte. Bien sûr, l'annonceur, il voulait vendre un médicament, c'était un truc pour la toux, je sais pas quoi. Et je me rappelle encore, c'est que après l'argument, c'était vous devez vous occuper de vos êtres chers. Puis il y avait un petit chien qui était tout content parce qu'on s'occupait de lui. Vous voyez, c'était chou. Mais dans le sens, il a dit quand vous tomberez malade. Eh, moi, tomber malade, exclu. Je refuse d'être malade. La Bible dit que Jésus a porté mes infirmités à la croix. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 dit « Par les meurtrissures duquel nous avons été guéris ». Donc j'ai dit, et en fait, vous le tournez d'une manière belle, mais il n'y a que des paroles qui peuvent contrecarrer des paroles. Donc je dis « Non, je ne tombe pas malade au nom du Seigneur Jésus ». Vous voyez un peu l'idée ? On doit laisser ces choses nous rendre ministère. Les gens, des fois, me demandent « Comment ça fait que tu n'es jamais, 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 jamais malade ?» Parce que j'ai horreur de ça, numéro 1. Ça me fait perdre mon temps, mon énergie. Mais vous voyez, regardez, depuis l'enfance, on est conditionné à accepter la maladie. Réfléchissez-y. L'enfant qui tombe malade, pour ceux qui sont parents, et qu'il est vraiment malade, vous faites la température et tout, on le récompense. Il ne va pas à l'école, il reste à la maison avec maman et papa, ou juste maman, ou juste papa, ou quelqu'un. Il reste au lit toute la journée avec des bonbons. Vous voyez un peu l'idée ? Il regarde la télé tranquille. Il a la belle vie. Je connaissais des parents, si l'enfant était malade, il devait faire des pompes et prier en langue jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et donc l'enfant, s'il se sentait malade, il disait, je préfère aller à l'école. Et donc du coup, il allait et il combattait sa maladie. C'est beau, hein? Et maintenant, cet enfant-là, que je connais, où il doit avoir la quarantaine maintenant, ne tombe plus jamais malade. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Dites Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour ça que ces principes chrétiens sont très importants pour nous. Prenez Romains chapitre 5, verset 17. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous enseignait. Il dit, et notez bien ça, car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul. Donc là, il parle du fait que Adam a péché. Les gens disent c'est Ève qui a péché. Bibliquement parlant, c'était Adam qui était responsable de sa femme. Et vu qu'elle a péché, le blâme est retombé sur qui? Sur Adam. C'est pour ça d'ailleurs que quand Adam et Ève viennent de pécher, Adam est comme ça, oui. Et Dieu lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, cette femme que tu m'as donnée m'a donné à manger du fruit. Et Dieu, il fait quoi la première chose? Il condamne Adam, pas Ève. Et après, il punit Ève en lui mettant la rédemption. C'est une raison pour laquelle la rédemption est venue par une femme, la Vierge Marie. Très intéressant ça. Très intéressant, notez bien quelque chose. La prophétie disait clairement que Marie, de son talon, écraserait la tête du serpent et que lui la mordra. Qu'est-ce que ça parle? Ça parle du fait que, n'oubliez pas, Marie, la Vierge Marie, est la nouvelle Ève. Vous comprenez ça? La première Ève a amené la destruction dans l'humanité. La nouvelle Ève a permis à la rédemption de venir. Vous comprenez? Et pourquoi est-ce que ça parle que le serpent la mordra quand même? Ça, c'est quand Ève, la deuxième Ève, Marie, la Sainte Vierge, a vu Jésus-Christ être crucifié. Ça a été quelque chose qui a percé son âme, vous voyez? C'est pour ça que la prophétie, quand la prophétesse vient. Non, c'est un prophète, pardon. Il y a le petit enfant Jésus qui a 8 jours. Il y a un prophète de nulle part qui arrive dans le temple et il la prend des mains de Marie. Il prend Jésus et il dit, voici le salut du monde. Et il dit quelque chose comme ça. Et après, il dit, et toi, Marie, ton âme sera percée. Et il lui rend le bébé. C'est quand elle a vu Jésus être crucifié. Mais après, son âme était restaurée quand elle l'a vu ressuscité. Amen. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le premier Adam, c'est qui? C'est Adam du jardin d'Éden. Le deuxième Adam, c'est qui dans la Bible? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous avez noté quelque chose? Ça, c'est intéressant. Regardez bien. Adam regarde, il regarde les animaux. Et il dit, j'ai besoin d'une aide, Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il la prend. Il prend Adam. Il l'endort profondément. Notez bien, il l'endort profondément. Et la Bible dit qu'il ouvre un côté ici pour prendre une côte et faire Ève, l'épouse d'Adam, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous suivez jusqu'ici, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et qui est l'Église par rapport à Jésus-Christ? L'épouse, n'est-ce pas? L'Église est l'épouse du Christ, la Bible dit, hein? Ok. Donc, le premier Adam, on lui a percé le côté pour que puisse naître l'Église, sa femme Ève. Et Jésus-Christ sur la croix, il a été percé sur le côté et c'est là que l'Église est née. C'est quand même fou ces comparaisons, hein? Il y a un Romain qui est venu quand Jésus est sur la croix, il lui a percé le côté ici. Et la Bible dit que de l'eau et du sang sont sortis. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par l'eau et le sang qu'on est purifié. Et la Bible dit que dès ce moment-là, l'Église est née. Pourquoi? Parce que juste après, les premiers chrétiens, qui c'était le tout premier chrétien de l'histoire de l'humanité? C'est l'homme, c'est les gens qui ont crucifié Jésus. C'est les premiers qui ont confessé Jésus comme étant Dieu incarné. C'est les tout premiers. Et donc, ils ont percé son côté. Et la Bible dit, notez bien, c'est pour ça qu'on sait que l'Église est née. L'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Est née et est devenue l'épouse du Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été percé. La Bible dit immédiatement, le centurion et les hommes qui étaient avec lui confessèrent qu'il était Christ et qu'il était Dieu en chair. C'est pour ça qu'instantanément, ils l'ont percé le côté. L'Église est née. C'est beau, hein? Donc, vous voyez la puissance des paroles quand Jésus a dit « pardonne-leur », ce n'était pas dans le vide. Ils ont été pardonnés, et non seulement pardonnés, mais ils sont arrivés au ciel. D'ailleurs, certaines églises ont qualifié ce groupe-là de saints. Que c'est des saints. Les hommes qui ont crucifié Christ? Oui, parce que Jésus-Christ est bon. Et il a dit, car si par la faute d'un seul, donc le premier Adam, la mort a régné par un seul, notez bien, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Dites, je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice. Après, il dit, régneront-ils dans cette vie? Quand il dit en vie, ça veut dire dans cette vie, littéralement. Régneront-ils dans cette vie par un seul Jésus-Christ? On règne par Jésus-Christ, vous comprenez? Vous êtes là toujours? Continuons à étudier. Apocalypse 1, 4 à 5. Jean, aux sept assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, notez ça, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son, dans son sang, verset suivant, et il nous a fait un royaume. Donc là, il dit, nous sommes un royaume. Dites, je suis un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu, son Dieu et Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Quand il dit un royaume, il veut dire un ensemble de rois. C'est ça qu'il dit. Donc on règne dans notre vie. Amen. Et comment est-ce qu'un roi règne? Par des décrets. Regardez, je vais vous montrer. Prenez Daniel chapitre 1. C'est un peu un long passage, mais j'aimerais qu'on l'étudie ensemble, d'accord? Vous êtes toujours là? Faites attention à vos paroles. Faites très attention aux paroles qui sortent de votre bouche. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. C'est Daniel 8, ça ? Non, Daniel 8, verset 1. Pas de souci. Je me disais aussi. La troisième année du règne de Belshazzar, le roi, une vision m'apparut à moi, Daniel, après celle qui est le commencement. Je vis dans la vision, il arrive. Attends deux secondes. Je me demande si je ne me suis pas trompé de chapitre. Donnez-moi deux secondes, les gens. Alors, c'est 6, pardon. On sait que ça doit être 6. Ah oui, c'est ça. Daniel 6. Et il put à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes. Des satrapes, c'est donc des gouverneurs en quelque sorte, pour qu'ils fussent dans tout le royaume. Et au-dessus d'eux, trois présidents. Donc il y avait trois mecs qui géraient tous ces 120, probablement 40 par gars. Dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes. Donc il était meilleur que tout le monde. Parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Dites, il y a en moi un esprit extraordinaire. C'est l'esprit de Dieu qui est en vous, vous voyez? Vous pouvez dépasser des présidents, vous savez ça? Parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Alors les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver dans l'administration du royaume quelques sujets d'accusation contre Daniel. Donc ils ont dit, on va regarder comment il travaille, ce qu'il travaille bien, ce qu'il fausse le roi, qu'est-ce qu'il fait? Et il ne pouvait trouver aucun sujet d'accusation, ni aucune faute, parce qu'il était fidèle. Et aucun manquement, ni aucune faute ne se trouva en lui. Que ça puisse être votre témoignage. Que si on cherche à regarder comment était votre travail, il était tellement impeccable, rien à dire. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons dans ce Daniel aucun sujet d'accusation, notez bien, à moins que nous n'en trouvions contre lui à cause de la loi de son Dieu. Intéressant. Alors ces présidents et ces satrapes s'assemblèrent en foule auprès du roi. N'oubliez pas, c'était tous des conseillers du roi, c'était les gestionnaires du royaume. Donc quand le roi les a reçus, ce n'était pas n'importe qui venait les voir. Vous voyez, ce n'était pas juste un conseiller comme ça, c'était vraiment les directeurs du royaume. D'accord? Notez bien. Et ils lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis à jamais !» Imaginez la scène. Tous les présidents du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs ont tenu ensemble conseil pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense. Donc là, ils vont voir le roi, ils disent, « On a préparé pour toi une loi. » Pourtant que quiconque fera une demande à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, durant 30 jours, excepté à toi, au roi, soit jeté dans une fosse au lion. » Donc il s'arrive vers le roi et dit, « Ô roi, nous tous, les présidents, les conseillers, les satrapes, on s'est mis ensemble et on a dit que ce serait bien de promulguer telle loi. » Ils mentent. Daniel n'était pas au courant de cette loi. Regardez. « Maintenant, ô roi, établis la défense et signe l'écrit afin qu'il ne soit pas changé selon la loi des Médès et des Perses. » qui ne peut être abrogé. À cause de cela, le roi Darius signa l'écrit et la défense. Donc il a signé. Maintenant, notez quelque chose. Le roi a été oisif, n'est-ce pas? Parce que la Bible montre clairement qu'il aimait Daniel particulièrement. Certains sous-entendent que c'était comme son fils. Vous voyez un peu l'idée? Il l'aimait particulièrement. Verset suivant. Or, Daniel, Quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa maison. Notez ça, c'est quelque chose, le courage de ces gens. Il sait que l'écrit est signé. Il a dit, oh, ils ont signé, laissez-moi aller à la maison et je vais défier cet écrit ouvertement, regardez. Entra dans sa maison et ce fenêtre étant ouvert dans sa chambre haute, il a ouvert ses fenêtres en grand, en direction de Jérusalem, il s'agenouilla sur ses genoux 3 fois le jour et priait et rendait grâce devant son Dieu comme il l'avait fait auparavant. Mais ces hommes s'assemblèrent en foule et trouvèrent Daniel qui priait et présentait sa supplication devant son Dieu. Alors ils s'approchèrent et dirent devant le roi, touchant la défense du roi, « N'as-tu pas signé une défense portant que tout homme qui, durant 30 jours, ferait une demande à quelque dieu ou quelque homme que ce fût excepté à toi, au roi, se serait jeté dans la fosse aux lions ?» Regardez bien, notez quelque chose, le courage de Daniel. Il aurait pu dire « pendant 30 jours, je prie pas, c'est pas grave. » Rappelez pendant le Covid, pendant 2 mois, on va pas à l'église, c'est pas grave. Tout ça était faux. Regardez. Le roi répondit et dit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui ne peut être abrogée. Alors ils répondirent et dirent devant le roi, Daniel, qui est d'entre les fils de la captivité de Juda, ne tient pas compte de toi, ô roi. Alors ça, c'était vrai pour le coup. Daniel, il a fait exprès, quand il a su, il a exprès ouvrir sa fenêtre et prier devant tout le monde. Ne tient pas compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as signée, mais il a fait sa requête 3 fois par jour. Alors le roi, quand il entendit ces paroles, en fut fort affligé. Et il pensa avec sollicitude à Daniel afin de le sauver. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Maintenant, il y a un problème. C'est que la loi de l'époque, c'était l'Empire babylonien, était claire. Si le roi signait un décret, c'était impossible, impossible de casser ce décret. Imaginez si votre parole était si puissante. Une fois que vous avez dit quelque chose, c'est impossible de casser ça. Vous voyez ça ? Et la Bible dit qu'il s'efforça de le délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Vraisemblablement, selon des historiens cette fois, pas la Bible elle-même, mais selon des historiens, il aura rassemblé tous les avocats et tous les juges et tous les conseillers et les présidents de tribunaux pour essayer de trouver un échappatoire à cette loi. C'est vraisemblablement ce qu'il a essayé de faire. Vous voyez un petit peu l'idée ? Il essaie de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen dans une constitution ou de faire un procès ou quelque chose comme ça ? Rien, impossible. Verset suivant. Alors ces hommes s'assemblèrent en foule auprès du roi et dirent au roi, sache au roi que c'est la loi de Médès et des Perses qu'aucune défense ou statut que le roi a établi ne peut être changée. Imaginez si vous régnez comme ça. La Bible dit qu'on règne par Jésus-Christ. Amen. Régnez comme ça, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Amen. Alors le roi donna des ordres et on emmena Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, ton Dieu que tu sers continuellement, lui te sauvera. Vous voyez, là, le roi il a dit, je peux rien faire. J'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à minuit. Jusqu'à tard le soir, on a cherché avec les juges, on a cherché avec les avocats, on a cherché avec les juristes quelque chose pour te sauver, mais rien. Seulement ton Dieu peut te sauver, notez bien. Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Jésus. Quand Jésus a été mis dans la fosse pour nous, on a mis une pierre devant aussi. C'est beau, hein ? Et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses grands, afin que l'attention à l'égard de Daniel ne fût pas changée. Alors le roi s'en alla dans son palais et il passa la nuit en jeûnant. Elle ne voulut pas qu'on lui amenât des concubines et son sommeil s'enfuit loin de lui. Ensuite le roi se leva avec l'aurore au point du jour et s'en alla en hâte à la fosse au lion. Notez quelque chose, le décret ne disait pas que la personne doit être mise à mort. Il disait que la personne doit être jetée dans la fosse. Vous voyez un peu l'idée ? Maintenant il faut savoir quelque chose, ces lions étaient volontairement affamés. Vous voyez un peu l'idée ? Et on va le voir après que juste le fait de jeter, la personne était morte normalement. Ensuite, le roi se leva, regardez, verset 19, se leva avec l'aurore au point du jour et s'en alla en hâte à la fosse au lion. Et comme il approchait de la fosse, il cria à Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Regardez, le roi a été complètement, complètement stupide dans le fait qu'il ait promulgué une telle loi. Lui-même savait que le seul Dieu vivant était le Dieu de Daniel. C'est intéressant, hein ? Ton Dieu que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ? Alors Daniel parla au roi et dit, ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que devant lui, l'innocence s'est trouvée en moi. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Pourtant, il a transgressé une loi. Ça vous montre que la désobéissance civile peut être acceptée par Dieu dans certains cas. Okay ? Alors le roi fut très joyeux et dit qu'on tira Daniel de la fosse. Et Daniel fut tiré de la fosse. Et aucun mal ne fut trouvé sur lui parce qu'il s'était confié en son Dieu. C'est beau ça. Et le roi donna les ordres, et on emmena ces hommes qui avaient accusé Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs femmes et leurs enfants. Et ils n'étaient même pas parvenus au fond de la fosse, c'est ce que je vous disais, que déjà les lions se rendirent maîtres d'eux et leur brisèrent tous les os. Donc les gens, normalement, même avant même qu'ils touchent le sol, qu'on les jetait, les lions, en fait, se jetaient sur eux comme ça. Vous voyez un peu l'idée ? Alors le roi Darius écrivait à tous les peuples des langues qui habitent toute la terre, que votre paix soit multipliée. Ouais, on va pas prendre le truc suivant. T'inquiète pas. Oh oui, ouais, quoique. De par moi, l'ordre est donné que dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Daniel et on le craigne, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Voilà, enfin il utilise sa parole, vous voyez, pour faire quelque chose de juste. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un tout dernier verset, si vous êtes d'accord. Jacques, chapitre 4. J'aimerais que vous voyiez ces vérités. C'est des vérités importantes. Pardon, Jacques chapitre 3, verset 4. Vous êtes toujours là? C'est beau, hein? On peut voir le verset 1, en fait. Ouh, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Parce que la parole de Dieu, vous voyez, elle crée en vous cette image de réussite. Amen. Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère. Il parle de docteur de Dieu, pas de docteur physique. Hein. Il parle pas de médecin, là. Verset suivant. Car nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne faille pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Notez quelque chose, si votre corps fait des petits ah et là, ici et là, c'est à cause de vos paroles. Vous pouvez dire, mon corps est en bonne santé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici, nous mettons les morts dans les chevaux, dans leur bouche. Pardon, nous mettons les morts des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent. Donc il dit, dans la bouche des chevaux, on met un truc pour qu'ils nous obéissent. Et nous dirigeons ça et là, leur corps tout entier. Ça, c'est vrai. Un cheval, vous savez qu'il a beau avoir la meilleure force, s'il ne regarde pas où il va, il ne peut pas aller dans cette direction. Par exemple, un cheval, il ne peut pas faire ça. Il garder la tête droite. Il ne peut pas. Je ne sais pas si c'est physique, c'est dans leur tête, j'en sais rien. Un cheval de 500 kilos, si vous lui maintenez la tête avec le pied comme ça, il ne se lèvera pas. Il doit d'abord faire un coup de tête pour se lever. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est physique? C'est une question d'équilibre de poids? C'est une question juste dans leur tête ou leur fonctionnement nerveux? On ne sait pas. Mais un cheval qui est par terre, si vous lui bloquez la vue et vous lui bloquez la tête, il ne peut pas bouger. C'est pour ça qu'un cheval, quand on le tire de ce côté-là, sa tête va comme ça et automatiquement son corps suit. Et donc là, il dit, on le guide en mettant un truc dans sa bouche. Et il prend cet exemple et il dit, nous mettons ça. Voici le verset 4. Voici les navires aussi. Donc là, il reprend un autre exemple. Qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail. Où que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Donc il dit, un navire, encore plus aujourd'hui, maintenant qu'on a des navires électroniques et tout, le gouvernail, il est comme ça. C'est un petit volant, hop, on le tourne et le navire qui transporte pour, je ne sais pas moi, 200 millions de dollars de pétrole peut être orienté complètement ailleurs. Verset suivant. Ainsi aussi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il? Donc là, il est en train de dire, votre langue, c'est comme ce petit gouvernail, c'est comme ce mors qu'on met dans la bouche d'un cheval. Elle peut diriger une armée entière, votre langue. Faites attention à votre langue. Faites attention à ce que votre langue dit. Amen, dites, je mets une garde sur ma bouche. Dites, je mets une garde sur ma bouche. Au nom du Seigneur Jésus. Prenez attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. Ça va pas. Vous venez de vous condamner. La Bible dit par notre parole, on va être justifié ou condamné. Ça paraît bateau, hein, mais ça marche. Témoignage. Christ est là, ce témoignage. Une maladie incurable. Au nom du Seigneur Jésus, je te commande de fonctionner comme tu dois, corps. Et le corps s'est aligné à la vérité de Dieu. Amen. C'est la beauté de l'évangile. On prend ces réalités spirituelles, on les applique dans notre vie et on voit du résultat. On dirige notre vie par notre parole. Écoutez, vous dirigez votre bateau avec votre gouvernail. Peut-être que vous êtes à un endroit complètement opposé de là où vous êtes censé être. Mais si maintenant vous commencez à tourner votre gouvernail, vous pouvez reprendre une bonne direction. Vos finances sont-elles en désadéquation avec l'endroit où vous êtes censé être? En tant qu'enfant de Dieu, on sait où on est censé être. C'est pour ça que la Bible nous dirige là où on doit être censé être. Et par notre bouche, on nous projette dans cette direction. Ne méprisez pas le temps. La Bible dit ne méprisez pas les petits commencements. On va prendre juste un navire pour faire l'exemple. Si vous êtes aux Caraïbes, alors que vous devez être à Rotterdam, au moins vous savez que vous devez aller à Rotterdam. Rendez gloire à Dieu. Et donc là, vous avez toute l'énergie à l'intérieur de ce bateau, toute la puissance pour prendre ce gouvernail, le faire aller et le rediriger. Maintenant, la différence avec un navire, et là, il l'a dit. Il est envoyé par des vents impétueux. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'aujourd'hui, nos navires sont faits aller par, vous savez, un carburant. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et je vais prendre cet exemple. C'est qu'à l'époque, un navire, plus ou moins, sauf si vous le laissiez vraiment amarrer, il allait partir, quoi qu'il arrive. Il partait. Il n'a pas besoin de pétrole pour avancer, c'est le coup de vent, hop, ça le faisait avancer. Donc en fait, il fallait faire aller le gouvernail d'une autre manière et tout. Et là, il est en train de dire, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous avancez. La question c'est, vous avancez vers le juste ou vers le faux? Une personne n'est jamais stagnante, ça n'arrive pas. D'accord? Les gens avancent tout le temps, constamment. Ils ne sont jamais stoppés. Amen. La question c'est, est-ce que c'est les vents? La Bible dit qu'un homme sans doctrine est un homme qui est, et ça s'applique à une femme aussi, hein, balancé de vent de doctrine ça et là comme le vent. Ou est-ce que c'est vous qui dirigez votre bateau? Mon bateau est là, je vais droit. Si le vent va au contraire, je tourne un peu plus ici. C'est pour ça d'ailleurs que si la maladie essaie de venir, c'est là des fois que vous allez dire au nom de Jésus, je refuse la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a ce vent contraire et vous lui donnez ce coup de gouvernail pour aller contre le vent. Vous voyez un peu l'idée? Mais d'une manière générale, vous devez garder ferme sur le gouvernail, même quand tout va bien. Parce que une petite erreur et le gouvernail, hop, il part de 3 degrés et il part complètement à l'opposé. Intéressant ça, hein? C'est pour ça que Jésus a comparé les éléments de la vie à du vent et une tempête aussi. Vous savez, la Bible est trop parfaite pour avoir été écrite par un homme. Il y a trop de références. Alors, elle a été écrite physiquement par un homme, hein. Dieu est passé par des gens infaillibles. Enfin, des gens qui avaient un don d'infaillibilité pour écrire ça. Comment est-ce que Daniel était une préfiguration du Christ alors que Christ n'avait encore même pas existé? Qu'on vient de lire là. Pas intéressant. C'est des choses à observer. Vous savez que la Bible nous donne le plan du salut avant même que Jésus-Christ soit mentionné dans un écrit qui a plus de 3500 ans. Vous voulez le voir? Je peux vous le montrer? Regardez. C'est quoi le plan du salut? C'est que Jésus-Christ est Dieu incarné qui est descendu auprès des hommes, n'est-ce pas? Et que sa mort, et accessoirement tout ce qui suivait sa mort, c'est-à-dire la résurrection, tout ça, nous amènerait la paix. C'est ça, hein? Prenons la Bible, Genèse. Hé. Vous êtes prêts? Souvent, les gens disent, oh, mais dans la Bible, il y a ce verset-là, je ne le comprends pas. Pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? Souvent, les gens disent ça, vous voyez? Vous avez déjà entendu des gens qui disent, mais pourquoi il y a les chroniques dans la Bible? C'est que des fils de fils de fils de... C'est vraiment genre, machin a engendré truc, machin a engendré truc, machin a fait un bébé avec machin, il a eu 3 bébés à tel endroit, et ensemble, ça fait une famille qui s'appelle machin, et le premier fils de machin a eu 4 bébés avec madame, et avec madame, il a eu 3 bébés. On est là, à quoi ça sert de lire tout ça? Eh bien, si vous saviez. Vous êtes prêts? Ouh! Dites Jésus-Christ est Seigneur. Oh. Qui est le premier homme? On a vu avant. Hein. Oui, c'est Adam. Regardez ça. Prenez. Je veux juste regarder, attendez voir. Allez voir. Non, je cherche juste. Allez, tout le monde est en vacances, on peut prendre un peu plus de temps. Amen. Je rigole, mon grand. Alors, en fait, c'est assez long, mais en fait, regardez, juste Genèse 5, tu peux mettre à partir du verset 1. Donc, en fait, c'est toujours ça, c'est le père, il donne un fils aîné, qui donne un fils aîné, qui donne un fils aîné, qui donne un fils aîné. D'accord? Donc il dit, c'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc il est en train de dire, Adam n'avait pas de père. Jésus, il avait un père? Non. Non, oui, il avait son père céleste. Donc Jésus était le fils de Dieu, Adam était le fils de Dieu. Intéressant, de nouveau. Bref. Et il les créa mâle et femelle, et les bénit, et il appelle leur nom Adam au jour qu'il fut créé. Regardez. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il appela son nom Seth. Et maintenant, on va prendre juste... Genèse 5, 6, verset 6, tu peux aller. Donc là, de nouveau, il continue quelques commentaires. Et Seth vécut 105 ans et engendra Enoch. Ensuite, verset 9. Ouais. Et Enoch vécut 90 ans et engendra Kenan. Donc en fait, il liste les noms, vous voyez, jusqu'à Noé. Rappelez-vous, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu le déluge, vous vous rappelez cette histoire? Déluge de Noé, l'arche de Noé, exactement. Et cette arche était donc le salut ultime pour l'humanité à l'époque. Non, mais rappelez-vous que ce livre a été écrit environ 3500 ans avant Jésus-Christ. Hein. Vous vous rendez compte à quel point c'est vieux? Après ça, on en rigole comme ça, mais c'était tellement vieux que c'était de l'hébreu antique. Pas de l'hébreu ancien, de l'hébreu antique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on prend tous ces prénoms, ça donne Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Mathusalem, Lémec et Noé. Écoutez bien, vous êtes prêts? Maintenant, si on traduit ces mots en français, parce que, comme tu t'appelles Guilherme, je suis sûr qu'on peut trouver, c'est Guillaume en français, je pense, hein, Donc Guillaume en français, j'imagine si on va dans l'étymologie du mot Guillaume, pas non seulement du prénom lui-même, mais du mot, on va trouver quelque chose. Par exemple, Joachim veut dire Dieu rétabli ou Dieu guéri. Mathilde, tu sais ça veut dire? Voilà, force, puissance, combat. Il y a toujours une signification. Christelle, ça vient du mot Christ. Vous voyez? Il y a toujours une signification. Donc quand on traduit, ça donne Adam, homme. Seth, placé. Enoch, mortel. Kenan, douleur et chagrin. Malahalel, vous n'êtes pas prêts, le Dieu béni. Jéret, ça veut dire descend du ciel. Enoch, l'enseignement. Mathusalem, c'est sa mort apportera. Vous vous rendez compte? Lémec, puissant. Noé, repos. Donc si on met ensemble, ça dit l'homme est établi, mortel. Adam, cet Enoch traduit, ça veut dire homme établi, mortel. C'est-à-dire l'homme a été rendu mortel et détruit. Et Kenan, ça veut dire dans le chagrin. Écoutez bien. C'est quelque chose. Hein. Vous suivez ou vous n'arrivez pas à suivre? Mahalalel, ça veut dire le Dieu béni. Jéret, ça veut dire descend. Donc c'est dit, mais le Dieu béni descendra du ciel, littéralement. Donc l'homme a été appointé, a été placé sous une mort et un chagrin. Mais le Dieu béni descendra du ciel. Écoutez ça. Enseignant Enoch, Mathusalem, il l'enseignera. Enoch, ça veut dire il l'enseignera. Donc Jésus-Christ, il a fait quoi pendant 3 ans sur terre quand il était adulte? Il a enseigné tout le monde. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mathusalem, ça veut dire sa mort amènera. Comment est-ce que Dieu pouvait être si précis dans une prophétie? Donc il dit, il est descendu du ciel, il a enseigné et sa mort amènera. Ensuite, Lémec, ça veut dire puissant et Noé repos, amènera un puissant repos. Un repos qui était désespérément attendu. C'est beau, hein? Vous vous rendez compte, la prophétie biblique, à quel point elle est pointée. L'homme a été placé dans le chagrin et la mort. Mais le Dieu béni descendra du ciel, il l'enseignera. Et sa mort, la mort du Dieu béni, c'est donc Jésus-Christ qui est mort, apportera le repos désespérément, puissamment attendu. C'est beau, hein? Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que la Bible, elle est trop parfaite. Trop parfaite. C'est pour ça qu'elle vous dirige dans votre vie. Ces choses-là ont été écrites avant que Jésus-Christ même existe. C'est comme la prophétie qui dit on prendra le Messie 800 ans avant Jésus et c'est dit on lui percera les mains et les pieds. Alors que la crucifixion n'existait même pas encore. C'est comme si un gars dans les années 1200 avait écrit XY va être passé à la chaise électrique. C'est aussi incohérent que ça. Pourquoi? Mais c'est la puissance de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi on sait que ces textes ils datent de l'époque? Parce qu'ils ont été en partie retrouvés dans les manuscrits de la Mer Morte en hébreu antique. Donc on sait que ces trucs datent bien de l'époque. C'est beau, hein? Dites, je dirige ma vie par mes paroles. Alléluia. Et il est temps du Saint-Sacrement de la communion. La Bible dit, la nuit où il fut livré, Jésus-Christ prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et le distribua. Et dit, ceci est mon corps qui est donné.